C'est parti pour une nouvelle plongée au cœur des sources. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de décortiquer un sujet absolument fascinant.
Ouais, fascinant et souvent très mal compris.
Exactement. Et pourtant, d'une importance historique, culturelle et biologique tout à fait essentielle. On va explorer le monde d'un animal qu'on croit tous connaître, l'âne.
C'est vrai qu'on a souvent cette image stéréotypée en tête.
Ah bah oui, la gentille peluche têtue qu'on croise parfois dans un pré pendant les vacances. Mais attention, l'idée ici, c'est pas de s'attarder là-dessus. On parle d'un véritable bâtisseur de civilisation.
En fait, quand on se plonge dans la source du jour, on réalise très vite qu'on s'est complètement trompé sur cet animal.
Tout à fait. Et pour mener à bien cette exploration, l'analyse va se concentrer exclusivement sur une mine d'or documentaire. C'est un article exhaustif, très captivant visuellement, qui s'intitule « L'âne de A à zèbre ».
Une vraie pièce maîtresse qui nous vient directement du bulletin numéro 21 du Cartoclub Aveyronnais.
Absolument. Et c'est d'ailleurs le moment idéal pour rendre à César ce qu'appartient à César.
Faut saluer le travail monumental qui a été fait, oui.
Voilà. Dès le début de cette analyse, il est vraiment impératif de citer le collectif d'auteurs et de contributeurs. Il y a toute une équipe de passionnés derrière ça. Je pense notamment à Jean-Pierre Azéma, Bernard Burguière,
Bernard Clermont, Françoise Canac, Francis Falguière, Laurent Faux.
Sans oublier Jean-Claude Garrigue-Vidal, Jean Gombert, Nicole Laroumiguière.
Josiane Morel, Gérard Naudan et Gilbert Régour. C'est ce qu'on appelle un véritable travail collaboratif.
Une œuvre chorale pour sauver un pan de notre patrimoine. Et parmi toute cette équipe, le document nous invite à accorder une mention toute particulière à Guy Mazard.
Ah oui, en tant que rédacteur en chef et concepteur de la maquette.
Il a abattu un travail colossal pour la mise en page de cette superbe édition. Le soin apporté aux images, la façon dont les cartes postales s'articulent avec le texte, tout ce rythme visuel rend la lecture hyper immersive.
C'est un document d'une richesse inouïe.
Du coup, la mission de notre analyse aujourd'hui est très claire. On va dépasser ce stéréotype tenace de l'animal un peu simplet
pour découvrir son histoire millénaire.
C'est ça, une biologie étonnante, un impact culturel massif et le tout documenté par ces fameuses cartes postales qui figent le temps. Bon, décortiquons un peu tout ça.
Je suis prête.
Commençons par le commencement. Si on regarde le contexte historique, la source nous indique que sa domestication date pas vraiment d'hier.
On remonte à il y a environ 6000 ans.
Ouais, ce sont les Égyptiens qui ont initié le mouvement. L'article mentionne même qu'on trouve l'âne de Nubie fièrement peint sur les parois du tombeau de Beni Hassan.
Et ce détail archéologique n'est pas anodin du tout.
Ah non.
Le fait qu'un animal soit représenté dans un tombeau égyptien, ça prouve qu'il n'était pas perçu comme une simple bête de somme triviale. C'était un élément crucial de la société, digne d'accompagner les défunts dans l'au-delà.
Cette ancienneté lui donne un statut physique. Et puis, si on avance un peu dans le temps, pour se pencher sur les textes sacrés, la présence de l'espèce asine est vertigineuse. Le document souligne qu'il est mentionné pas moins de 130 fois dans la Bible.
130 fois ! C'est un chiffre incroyable.
On imagine toujours d'autres animaux bibliques, mais l'âne est omniprésent.
Omniprésent. Et surtout avec des rôles hyper variés. Ça illustre à la perfection la dualité symbolique de cet animal.
Comment ça ?
D'un côté, il est associé à des scènes d'une grande violence ou de puissance destructrice.
Comme l'exemple de Samson dans l'Ancien Testament ?
Exactement. Samson qui écrase un millier de Philistins en étant armé de la seule mâchoire d'un âne. C'est une image brutale.
Mais d'un autre côté, dans le Nouveau Testament, l'image change du tout au tout.
Il incarne l'humilité absolue, la paix, la douceur. La Vierge Marie enfourche un âne pour se rendre à Bethléem. L'âne est ensuite dans la crèche pour réchauffer le nouveau-né.
Historiquement et mythologiquement, son image n'arrête pas d'évoluer. Il incarne tour à tour la sagesse divine et l'humilité profonde.
Et subit aussi le revers de la médaille en représentant l'ignorance et l'entêtement aveugle. C'est un animal tout en contradiction.
Et ce qui est d'autant plus amusant, c'est que ce contraste permanent se retrouve même dans sa biologie. L'effet brut de l'article bouscule pas mal d'idées reçues. Déjà l'espérance de vie.
Un âne en bonne santé peut vivre entre 30 et 40 ans.
Une vraie tranche de vie humaine. Et ensuite, la diversité physique est folle. Le poids peut varier du simple au décuple. On passe d'un petit âne nain de 70 kg à un colosse de 500 kg pour le baudet du Poitou.
Le fameux baudet du Poitou.
Oui. Avec sa fourrure hyper épaisse, presque des dreadlocks naturels qui lui donnent un petit air préhistorique.
Et cette diversité s'accompagne d'une capacité d'adaptation hors norme, surtout pour son régime alimentaire.
C'est un animal originaire de pays semi-désertiques à la base.
Voilà. Du coup, il a développé des goûts d'une simplicité désarmante. Là où un cheval a besoin de bons pâturages et de céréales de qualité, l'âne se contente de très peu.
La source précise qu'il se régale d'un chardon rugueux ou d'une branche remplie d'épines.
Un truc qui blesserait n'importe quel autre herbivore.
Il tire son énergie d'une végétation aride. Et il y a cette petite note amusante dans le document. Il adore les croûtons de pain sec, mais faut faire attention à sa santé et lui en donner avec modération.
Le roi de la frugalité.
Par contre, là où l'article prend un tournant vraiment drôle et inattendu, c'est sur le comportement amoureux de l'âne.
Ah oui, le signe de Flemen.
C'est ça, exact. Ce détail biologique, souvent capturé de manière humoristique sur les vieilles photos, c'est cette curieuse grimace où l'animal lève la tête, retrousse complètement la lèvre supérieure et montre les dents.
On dirait qu'il fait un sourire nia au photographe.
Mais en réalité, le texte nous apprend que c'est une technique olfactive très sérieuse. C'est réservé au mâle pour capter de manière optimale les phéromones de la femelle pendant l'ovulation.
Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste entre l'allure parfois flématique de l'animal et son énergie vitale débordante quand il s'agit de reproduction. Le texte convoque d'ailleurs une figure d'autorité amusante sur le sujet.
Georges-Louis Leclerc de Buffon.
Lui-même. Buffon ne tarissait pas d'étonnement sur la libido incroyable de l'âne. Il décrit un amoureux qualifié d'increvable, capable de saillir ses femelles plusieurs jours d'affilée et de multiples fois par jour.
Les mots de Buffon rapportés dans l'article sont intenses, hein ? Il dit qu'on en a vu mourir sur le champ de bataille amoureux.
S'épuisant jusqu'à ce que mort s'ensuive après 11 ou 12 conflits réitérés sans intervalle. La source précise d'ailleurs qu'il faut lui fournir quelques pintes d'eau pour subvenir à cette dépense physique vertigineuse.
Mourir sur le champ de bataille amoureux, quelle description épique! Et cette vigueur génétique n'a pas échappé aux humains, qui l'ont largement exploitée avec l'art des croisements.
Très tôt, les éleveurs ont compris l'intérêt de combiner la robustesse de l'âne avec la force du cheval. L'équation est simple. Un âne mâle croisé avec une jument, ça donne le mulet ou la mule.
Un hybride d'une résistance à toute épreuve.
Bien que stérile, le mulet a été le tracteur de l'ancien monde.
À l'inverse, si on croise une ânesse avec un cheval, on obtient le bardeau. Le texte précise qu'il a des qualités beaucoup moins remarquables, du coup il est moins recherché.
Et pour la petite curiosité, l'article va encore plus loin en mentionnant les hybridations avec le cousin de la savane, le zèbre.
Ah oui, selon qu'on croise un zèbre avec un âne ou un cheval, on obtient des animaux au nom fabuleux. Le zébrule, le zébré, le zébride ou encore la zébrane.
La zébrane, c'est génial comme nom.
On dirait vraiment une créature fantastique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car au-delà des curiosités génétiques, cette endurance qui permet de créer des mulets invincibles, c'est ce qui a fait de l'espèce asine un atout logistique et militaire absolu.
Faut oublier la vision romantique de la cavalerie de prestige.
Oui, les chevaux cabrés dans les peintures héroïques, c'est bien beau, mais dans la réalité crue de l'histoire, c'est l'âne et la mule qui faisaient tourner la machine de guerre.
La source aligne des exemples historiques frappants. Alexandre le Grand ne se déplaçait pas sans une logistique implacable. 30 000 ânes dévolus au ravitaillement.
30 000 ânes ! Et les dignitaires romains préféraient les charrettes tractées par des ânes. Même au Moyen-Âge, les magistrats choisissaient le dos de la mule pour affronter les longs voyages.
C'est le véhicule tout-terrain de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Napoléon, lors du fameux passage des Alpes, a largement compté sur les mules pour franchir les cols enneigés, là où les chevaux glissaient.
L'article fait même un bond dans le temps vers une époque beaucoup plus contemporaine, la Seconde Guerre mondiale.
En 1944, la campagne d'Italie.
Le général Juin face au relief impitoyable du Garigliano. Les camions étaient inutiles. La solution, c'était les unités mulassières.
12 000 hommes travaillant en tandem avec 4 000 mules. Absolument indispensable pour hisser l'artillerie sur des sentiers vertigineux. La sûreté absolue du pas de cet animal en faisait un allié militaire irremplaçable.
C'est quand même fou d'imaginer 4 000 mules en pleine ligne de front au XXe siècle. Mais le bulletin ne s'arrête pas à la logistique militaire. Il révèle un autre pan totalement inattendu, ses vertus thérapeutiques.
Posséder un âne à une certaine époque, c'était presque comme avoir une pharmacie ambulante. L'article liste des usages médicaux qui semblent sortis d'un vieux grimoire.
On s'intéresse au lait d'ânesse, par exemple. Tout le monde connaît la légende de Cléopâtre pour entretenir la jeunesse de sa peau, mais la réalité médicale était bien plus vitale.
Extrêmement prisé, ouais. Réputé très nutritif et moins gras que celui de la vache, on le recherchait pour l'allaitement des nouveau-nés.
Et la raison médicale est fascinante. Contrairement à la vache, l'ânesse n'est pas sujette à la tuberculose.
Dans un monde sans pasteurisation, c'était crucial. Boire du lait de vache cru pouvait être mortel. Le lait d'ânesse, c'était une garantie de pureté.
Dans l'Antiquité, on l'utilisait pour soigner les empoisonnements, apaiser la gorge, faire tomber la fièvre. L'article cite d'ailleurs les vers d'un malade très satisfait qui écrivait « Par sa bonté, par sa substance, d'une ânesse le lait m'a rendu la santé. Et je dois plus en cette circonstance aux ânes qu'à la faculté. »
Une belle pique adressée aux médecins de l'époque.
Et ce qui est génial avec cet article, c'est qu'il s'appuie sur une carte postale très précise intitulée « Le marchand de lait d'ânesse ».
Avec des types toulousains en pleine rue.
Exactement, avec l'animal qui patiente sur les pavés, prêt à être très sur place pour fournir un lait ultra frais et garanti sans germes.
Et le pragmatisme faisait que rien ne se perdait. Le crottin servait d'engrais organique, mais possédait aussi des vertus dans la pharmacopée populaire.
Sans parler de la peau de l'animal.
Une fois tannée, elle était très recherchée pour fabriquer des tambours grâce à sa formidable résonance et pour confectionner de luxueux parchemins, les fameux parchemins chagrins.
L'économie autour de l'âne était totale, ce qui nous amène tout naturellement à l'âme même de ce bulletin du Cartoclub Aveyronnais, la richesse de son iconographie.
Tout ça prend vie grâce à un véritable tour de France en carte postale.
La qualité de ces petits bouts de carton est incroyable. C'est là que le travail de rassemblement de l'équipe prend tout son sens sociologique. Ces cartes figent le quotidien, les petits métiers ruraux et très souvent une bonne dose d'humour.
Ce sont des fenêtres ouvertes sur un monde agraire disparu.
Il y a des exemples savoureux qu'il faut détailler. Pour l'humour, le document décrit une carte espagnole hilarante intitulée « Fumer est un plaisir poumain ». On y voit un âne affublé de vêtements rayés grotesques, un chapeau sur la tête avec une énorme pipe entre les dents.
Et la légende amusée des éditeurs de l'époque qui dit en Espagne « Le tabac ne tue pas encore, pas plus que le ridicule ».
Le bulletin mentionne aussi des cartes plus tendres, les grosses bises des Pyrénées ou gros bisous. On voit des ânes se frottant le museau, ce qui illustre le côté profondément attachant de la bête.
Né au-delà de l'humour, il y a l'ingéniosité des sociétés paysannes. L'exemple le plus iconique, c'est l'âne en culotte de l'île de Ré.
Ah oui, l'âne portant des pantalons. Sans contexte, on pense à un déguisement de carnaval.
L'article remet les choses dans leur contexte de labeur. Ces ânes travaillaient dans les marais salants sous un soleil de plomb. Un environnement infesté de moustiques agressifs et recouvert d'herbes piquantes.
Pour protéger leurs pattes, les sauniers ont eu cette idée brillante. Les femmes confectionnaient des pantalons sur mesure en grosse toile, rayés, les fameuses quiche-notes.
Une adaptation ergonomique parfaite devenue un vrai folklore local.
Le Tour de France continue avec d'autres scènes locales fabuleuses. On a cet âne transformé en taxi urbain sur la Côte d'Azur, à Nice, promenant une paysanne endimanchée.
On change de décor ensuite à Vichy avec la laitière bourbonnaise, tirant une carriole chargée de bidons de lait.
Et comment parler du Cartoclub Aveyronnais sans évoquer les scènes locales de la région? Le porteur d'eau minérale photographié à mur de barèze. L'animal croule sous une structure en bois chargée de bouteilles en verre.
Il y a aussi cette scène montagnarde de la mule postière, un animal trapu pliant sous le poids des lourds ballots postaux avec le facteur qui pose fièrement.
Sans cette mule, jamais le courrier n'aurait été livré à domicile dans ces zones. Toutes ces scènes racontent une dépendance mutuelle entre l'homme et l'animal.
Et l'article offre aussi une plongée intimiste en retraçant une saga familiale narrée par Francis Falquière, Les aventures de Pompon.
C'est sans doute le passage le plus touchant. L'histoire de Pompon nous plonge en 1910. Cet âne acheté à des bohémiens sur le Causse-Comtal devient un membre à part entière de la famille.
Chaque matin, il tirait l'attelage chargé de bidons de lait depuis la ferme jusqu'à la laiterie de Besaune.
Et il connaissait le trajet par cœur. L'auteur raconte qu'il n'y avait même plus besoin de tenir les rênes. Au simple son du klaxon de l'autobus, Pompon anticipait et se déportait calmement sur le bas-côté.
Une prudence exemplaire, mais ça masque pas sa volonté de faire. La source livre une anecdote croustillante.
Le pari avec le chauffeur de bus?
Oui, le chauffeur a parié qu'il pourrait démarrer son autobus plus vite que l'âne sur un départ arrêté. Et c'est l'autobus qui a perdu.
Pompon a bondi avec une vivacité inattendue. Ce compagnon est resté fidèle toute sa vie. Après la disparition de son maître en 40, l'animal vieillissant a puisé dans ses dernières forces pour une ultime marche de plusieurs kilomètres.
Il s'est rendu devant le domicile familial à l'Edenac pour y rendre son dernier souffle.
Une loyauté qui force le respect. Le contraste avec la réputation de stupidité de l'espèce est d'une violence inouïe. Ce qui nous amène au dernier point du document, le fameux bonnet d'âne.
Si l'on relie cela à une vision plus globale, le traitement symbolique de l'âne dans le système éducatif est hyper révélateur. Le texte s'attarde sur ce bonnet de tissu surmonté des deux longues oreilles.
L'outil d'humiliation psychologique par excellence dans l'éducation nationale autrefois. La matérialisation du cancre que l'instituteur mettait au coin pour l'exposer à la moquerie publique.
C'était presque traumatisant.
Heureusement, l'article précise que c'est tombé en désuétude. Nos écoles modernes ont abandonné cette pratique.
C'est vrai, mais la source fait une remarque très pertinente. Le symbole n'a pas été effacé, il a migré.
Vers la satire politique.
Exactement. Aujourd'hui, dans la presse quotidienne, les caricaturistes l'utilisent pour coiffer les politiques ayant commis des bourdes. Le bonnet d'âne est passé de la punition scolaire à l'arme fatale de la critique publique.
Alors, que faut-il retenir de tout cela ? Cette plongée passionnante à travers le bulletin du Carto Club Aveyronnais nous prouve que derrière le stéréotype du bonnet de cancre se cache un acteur majeur de l'histoire humaine.
Un bâtisseur d'empire, une pharmacie sur pattes.
Et un compagnon humble au caractère bien trempé. Il est fondamental de rappeler que la profondeur de cette histoire nous est restituée grâce au rassemblement minutieux de ces documents par Guy Mazard, Gérard Nodan et toute l'équipe.
L'immense mérite de cette publication, c'est de nous alerter sur la fragilité de notre mémoire collective.
Sans ces petits bouts de carton imprimés, on perdrait tout ça.
Les cartes postales anciennes agissent comme des capsules temporelles. Si des passionnés ne prenaient pas le temps de les sauver, toute cette épaisseur historique serait engloutie par l'oubli.
C'est une magnifique leçon de transmission culturelle. Et pour refermer cette exploration, le parcours de cet animal nous invite à une réflexion plus large.
Sur l'évolution de nos symboles sociaux.
Exactement. Quand on observe comment l'âne est passé de monture divine à cancre humilié, on réalise à quel point nos symboles sont malléables et ingrats. Aujourd'hui, on baigne dans l'immédiateté, fasciné par la vitesse et l'intelligence artificielle.
C'est un monde en accélération perpétuelle.
Du coup, on peut légitimement se poser une question troublante. Quel animal contemporain ou quelle machine silencieuse la société de demain choisira-t-elle pour symboliser cette résilience discrète, ce travail essentiel et pourtant si souvent mal compris qui définissait autrefois l'âne de nos campagnes ?
Une belle piste à méditer.
Une très belle piste pour terminer cette plongée.